présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle lui dit, c'est à l'autre bout de Paris, c'est loin. Merci. Et il quitte la banque. Une fois dehors, il se dit, je vais manger, après nous verrons. Il cherche un magasin pour s'acheter à manger quelque chose. Il a trouvé un petit épicier, a acheté une tablette de chocolat et des gâteaux secs. Tout en marchant, en mangeant, il se demande comment il va trouver le groupe Franc Blanc. Tout en marchant, en mangeant, il se demande comment il va trouver le groupe Franc Blanc. Les gens lui disent qu'ils ne savent pas, que c'est loin. Voir que des adolescents, des enfants sales ou en guenilles qui le regardent d'une drôle de façon. Lui se méfie, il a peur qu'on l'attaque et lui prenne son écran. Sans écran, il n'est rien. Il n'existe plus sans écran. Avec un écran, on retourne dans le monde. C'est une chose très précieuse. La journée passe, sa marche, au hasard, l'a menée dans des rues étroites et sales. Il dit qu'il a dû se tromper de direction. Il faut qu'il retrouve le centre de Paris. Parce que là, il s'enfonce dans les quartiers populaires. Donc, comment retrouver le centre de Paris ? La beauté des quartiers. Il a beau tourner en rond, il tombe toujours dans des rues lépreuses, aussi lépreuses que l'autre. Et à qui demander son chemin ? Les gens qui croisent ont de ses têtes. Il commence par être fatigué. Il fait nuit. Il cherche un endroit pour dormir. Il ne peut pas dormir dehors. Il ne fait pas assez chaud. Et prendre une chambre à l'hôtel à son âge, ce n'est pas possible. C'est pas l'emmener dans un quartier moins lugubre. C'est le quartier Montparnasse. Il y passe mieux. Et les gens qu'il croise sont moins, disons, encore lugubres. La nuit est là, il n'y a presque plus de passants. Il a faim. Achète un morceau de pain. Décide de voir. Il ne peut pas rentrer dans une allée pour y passer la nuit. Il voit une porte d'allée marron, toute triste, d'un vieil immeuble. Il la pousse avec sa main et c'est ouverte. Il entre. L'allée est étroite. C'est un couloir, une lampe accrochée à un fil au plafond. Le sol, c'est de la pierre qui a été usée par les âges. À droite, des boîtes aux lettres, des pareillés en bois. Au fond de la porte, au fond de l'allée, des escaliers étroits de pierre usée, avec rampe en fer métal, vers bouteille. Il y a des détritus dans l'allée et les escaliers. Il va vers le fond de l'allée. En passant devant les boîtes aux lettres, il regarde les noms, comme ça. Une boîte aux lettres plus propre que les autres. Hein? Dessus le nom de famille Prudent. Il se dit, drôle de nom. Il va derrière les escaliers. Il y a derrière le coin poubelle. Elles sont pleines et empestent l'allée. À côté, une porte grillagée qui mène aux escaliers pour aller aux caves. Ce sont les sous-sols. Ça sent l'humidité. Il ouvre la porte. Elle n'est pas fermée à clé. Il a appuyé sur le bouton de la minuterie. Elle s'est éclairée. Il se dit que ça vaut mieux parce que la nuit dans les couloirs des caves, ça peut être dangereux. Il descend les escaliers qui sont usés et humides. Le plafond est en ogive. Il y a des toiles d'araignée. Le sol a des saletés, canettes de bière, carton McDo, etc. Au fur et à mesure qu'il descend, ça sent de plus en plus humide. Arrivé en bas, c'est un grand couloir qui au bout tourne. Le sol c'est de la terre. Il y a à sa droite des portes en bois pour les caves et de l'autre côté un mur brut. Il se dit, être à Paris et passer sa première nuit là. Il va jusqu'au bout du couloir, après tourne. Il y a encore deux caves et au bout des marches d'escalier qui donnent à une porte en bois en ogive. La porte ressemble à une porte de jardin. Va jusqu'aux marches des escaliers. Et là, s'assoit pour dormir. Il ne fait pas froid, mais c'est juste. La minuterie s'est éteinte. Par le moindre bruit, à part les gouttelettes, il essaye de se détendre pour dormir, mais il n'y arrive pas. Le manque de confort, la peur aussi, et cette humidité. Il se dit que demain, il doit chercher et trouver quelque chose reverra la belle fille qui travaille chez Franblanc. Paris n'est pas ce qu'il croyait. Et ce qui lui arrive, non plus. Il s'imaginait une ville belle et grande, où tout était facile, où les retrouver. Quelque chose. Le centre Franblanc. Mais il voit que c'est pas si simple. La réalité l'a rattrapé. Maintenant, il ne doit plus rêver. Tout à coup, il entend un bruit sourd. Un bruit sourd. Quelque chose qui se rapproche. Un bruit qui lui rappelle quelque chose. Camion qui s'est arrêté. Ça lui rappelle quelque chose de désagréable. Des pas. Il se dit, non, c'est comme un lion. Il est recroupillé dans le noir. Il se sent en danger. Il a peur. Des cris, des coups de feu, des cris. Il entend l'horreur. Il entend l'horreur et n'ose pas bouger. Non, il n'ose pas bouger. Le corps qui bat la chamade. Il s'est dit qu'à Paris, c'est comme à Lyon. Pourvu qu'on ne descende pas dans un cave. Des cris, des hurlements, des coups de feu, des choses que l'on casse. Ça hurle dans tous les coins. Lui reste au recroquevillé, un califourchon, à terre en clambant. Il est devenu un enfant, un petit enfant qui a peur. Il n'a personne pour le protéger. À Lyon, il a déjà risqué la mort. Mais on l'a aidé jusqu'à la dernière minute. À Paris, il n'y a personne. Tout d'un coup, la lumière s'éteint. Non, la lumière s'éclaire. Il ne bouge pas, paralysé. Il entend. Le portail qui s'est ouvert. Vite, dépêchons. des pas dans les escaliers. François se plaque pour ne pas être vu. Des pas dans le couloir. Il descend en vitesse. Il voit trois personnes. Un homme, une femme et un enfant. Ils sont en robe de chambre, marron et charentaise. L'homme est grand, mince, visage lisse, cheveux châtains. La femme est blonde. Le garçon doit avoir à peu près l'âge de François. Il est blond, tête ronde. Ils sont émus en émus qu'ils ne font pas attention à François qui est recroquevillé contre le mur du couloir. L'homme en vitesse ouvre la porte d'une cave et entre vite. Ils entrent dans la cave et ferment la porte. La lumière s'éteint. Le père dit, restons ici. Tant qu'ils sont là, c'est salopard. La femme dit,
ce sont les francs blancs qui font ça pour nous déloger de chez nous. Les hommes en noir, ce sont eux.
Les garçons dit. Et les jeunes qui sont au grenier, la femme lui dit.
Alexis, arrête avec eux. Nous verrons après.
Marie dit. Tu as raison. Tu as raison. Nous verrons après.
Denise dit, qu'allons-nous faire, Jules? J'ai peur. Madame Poncet a raison. Les francs blancs, c'est des assassins.
Lucie demande,
et Mathieu et sa mère?
Le père lui dit,
nous n'y pouvons rien.
Et puis, ils sont pas dans la rue, ils sont un peu plus loin. Ça va attendre. On entend toujours le bruit de la tuerie.
Denise dit, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ça va, Alexis?
Oui, maman. Le père demande,
est-ce que tu crois qu'on nous cherche?
Elle lui dit, pourquoi est-ce qu'on nous chercherait? Nous sommes des prudents, des rien du tout.
Peut-être bien, mais tu travailles pour les Poncet.
On entend le bruit des tueries.
Au feu! Au feu!
Mon Dieu, le feu!
Mon Dieu, le feu!
Dit Denise. Ils ont encore plus peur.
Serrons-nous très fort, c'est peut-être notre dernier instant.
François est tout seul,
se serre tout seul, il se dit qu'il va peut-être mourir à Paris.
Oui, il va peut-être mourir à Paris. Le silence. Rafale de mitraillette.
Oh!
Un cri. Porte qui a claqué. silence, puis... Des cris, des portes qui claquent. On peut sortir. Ils ont dû s'en aller. Denis lui dit, faut tout de même faire attention. La porte de la cave qui s'ouvre. La famille sort. En se retournant, elle dit au François, au croquevillier, « Maman, il y a un garçon. » Elle se retourne et lui dit, « C'est un garçon qui a dû se cacher ici. Laisse, allons, allons en haut. » Paul entend qu'il suit le couloir. La mère dit, « Oh Dieu, on n'entend rien. » C'est horrible. Oh, c'est horrible, mon Dieu. Mon Dieu. Non. Marie lui dit, il faut voir chez nous s'il ne reste pas quelque chose. Mais il se sent. Et tout c'est mort. Et François ne les entend plus. Le silence. Il entend le bruit, le cri, le feu. Il se dit qu'il doit quitter ce quartier. Il sort de la cave. Juste où il décide de partir, il se dit qu'il doit faire quelque chose. Alors malgré lui, malgré le danger, il décide de visiter l'immeuble. Regarde, dégoûté, il y a des cadavres pleins de sang, à moitié nus, de tout âge et sexe. Des trous au ventre, au front, des coups de hache, de poignard. Le sang au milieu, des meubles cassés, etc. Les meubles sont défoncés, cassés aussi. portes des appartements sont défoncées. François dans un appartement. Il n'y a que des cadavres. Tout est démoli. Cadavres tués à coups de hache. Immeuble aussi. Défoncé, massacré. Il voit au milieu de débris la photographie d'un jeune garçon de la cave, celui d'Alexis. Il ne sait pas pourquoi il prend la photographie et la met dans sa poche. Puis, il va dans la cuisine qui a été saccagée. Il trouve à terre un paquet de biscuits. Il le prend et sort de l'appartement. Tout d'un coup, fatigué, il décide de quitter tout ça. Il y a toujours du bruit, des cris. Et maintenant la police, les pompiers. Il se dit, faut que je quitte tout ça en vitesse avant qu'on mette en quarantaine le quartier. Alors, il sort de l'appartement prudent, descend les escaliers en faisant attention de ne pas marcher sur les cadavres. Sur un palier, la porte est ouverte. Vite, il se dépêche de descendre. Il entend derrière lui. N'ayez pas peur, j'ai réussi à me cacher sur le rebord de la fenêtre. François sort de l'immeuble. Dehors, il y a des gens court dans tous les sens. L'immeuble objet qui sont été jetés à terre au milieu des cadavres, des blessés qui crient du sang. Ça crie dans tous les sens. La police, les pompiers. Les immeubles en ruine qui brûlent. Une femme maigre, nue, sans chemise de nuit, crie. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Vous avez fait exprès de massacrer, nous laisser massacrer, assassins, mort au flanc blanc. Les gens crient, mort au flanc blanc, mort au flanc blanc, mort au flanc blanc. Les immeubles s'effondrent sous les flammes. Les gens sortent des immeubles affamés en courant. Des hommes, des femmes, des enfants. Une femme hurle au milieu de tout ça. Mon enfant est mort! Mon enfant est mort! Des
des blessés qui hurlent de douleur, qui sont pleins de sang. François voit tout ça horrifié, il ne sait que faire. Les pompiers sont arrivés sur tous les endroits pour éteindre le feu. La police maintient les gens, les infirmières, les médecins. Ça arrive en urgence. Tout à coup, il voit en face de lui une vieille femme, maigre, cheveux blancs, tachés de sang. Tout son corps est ensanglanté. Il se sauve en courant. Il se met à courir, dégoûté de tout ça. Il court au milieu de ce décor de fin du monde. De morts, de blessés, de cris. Personne ne fait attention à lui, parce que tout le monde court, pense à ses peines. Il court au hasard. Sa course l'a éloigné, sans se rendre compte. Elle éloigne petit à petit de tout ça. Enfin loin, peut-être pas géographiquement, mais loin, loin de l'enfer. Il se retrouve vers les quais de Seine, où tout est calme, épuisé, sans chercher à savoir si c'est dangereux. Et puis, après ce qu'il a vu, qu'est-ce qui peut être dangereux? Il s'allonge sur un banc, sur les quais. Il fait pas trop froid. Épuisé, il essaye de dormir. Sa première journée à Paris a été éprouvante. Et ce n'était qu'une journée. Il s'endort sans rêve. Il ne s'en souviendra pas en se réveillant. Le froid, des courbatures, le réveille d'un coup. Il fait une lumière grise. Il s'assoit, s'étire un peu, bâille. Il se dit qu'il a faim. Il regarde s'il a encore son écran. Puis il l'a. Décide c'est de s'acheter quelque chose à manger. Il se lève. Il y a peu de voitures qui circulent. Il traverse la rue pour aller du côté des immeubles pour chercher un magasin. Il décide de prendre une rue qui monte un peu. Mais fait attention de ne pas retomber dans la rue d'hier au soir. Dans une petite rue étroite, il y a une petite épicerie, triste,
et sombre. Il décide d'y rentrer. C'est sombre, ça sent le café et le savon de Marseille. En vrac, un peu de tout. Il y a même des balais, des casseroles, des conserves, légumes, etc. Une femme, grosse, grande, à cheveux gris, blouse blanche. À son comptoir, il y a une vieille balance à plateau. Elle lui demande, « Vous désirez ?» Il lui dit, « Du chocolat avec du biscuit, s'il vous plaît. » Elle lui dit, « J'ai du chocolat, j'ai que du pupier. » Ça va, merci. Va lui chercher sa tablette de chocolat et son paquet de biscuits. « Tiens, ça fait !» Il donne son écran. Elle lui fait « Ah, je vois, Banque Populaire !» Il est bien jeune pour traîner. « Et pourquoi es-tu habillé comme ça ?» Il lui dit « J'ai trouvé ça !» Elle lui dit « Ils sont tous sales !» Elle accorde l'écran sur son ordinateur pour faire la somme. Et le lui tend. Elle lui dit, tiens, fais attention, les enfants traînent pas longtemps à Paris, surtout avec une belle loule de toi. Je connais quelqu'un qui s'occuperait de toi si tu veux. Elle lui dit, non merci madame, je me débrouillerai bien tout seul. Et il la quitte. Il dit, filons vite avant qu'elle me dénonce. Et il file. Oui, il faut vite filer, parce qu'autrement elle risque de me dénoncer. Et il file. Il trouve un square pour s'asseoir et manger. Il s'assoit sur un banc et mange ce qu'il a acheté, puis le paquet qu'il a pris chez les prudents. Le square n'est pas très grand, est à l'ancienne, avec son mur qu'il délimite, son grillage, de vieux arbres, de pelouses interdites aux ploucs. Pendant qu'il mange, quelques enfants jouent dans le parc, le square plutôt. Il y a aussi des vieux qui discutent sur les bancs. Il se souvient de la photo qu'il a prise. Là, il sort de sa poche et la regarde. Il trouve le garçon beau et gentil. Il se demande ce qu'il est devenu. Une fois qu'il est fini de manger, il quitte le square. Puis, il passe sa journée à se promener au hasard dans les rues. Ce qu'il a entendu sur les francs blancs l'a refroidi et il n'a pas envie de les voir pour le moment. Il verra plus tard. Le soir venu, décide de dormir sur un banc. Sur les quais. Durant son sommeil, un sommeil profond, il entend comme du bruit. Il a l'impression qu'on marche sur lui. Il sent aussi une odeur désagréable. Ne pas se réveiller de peur de savoir ce que c'est. Le lendemain, il se réveille et voit que tout est calme. Il a dû rêver. Il est allé dans une épicerie pour acheter à manger. Mais l'épicier, un homme petit, maigre, cheveux blancs, lui dit « Je ne peux rien vous donner, votre compte est à zéro. » Alors Aleti est obligé, c'est de faire la manche. Dans son écran pour qu'on écrive quelque chose. Il n'aime pas ça, mais il faut bien pour vivre. Il a beaucoup hésité pour le faire, mais au bout d'un moment, il est bien obligé de tendre son écran. On lui marque des petites sommes. Ce sont les femmes qui sont les plus gentilles. Elles font devant ce charmant garçon. On lui demande pourquoi il est à la rue. Il dit parce que son immeuble a pris feu. Une femme, blonde, en manteau de fourrure, marine, lui demande « Et tes parents ?» et lui dit « Ils sont morts. Oh, mon pauvre chéri, il faut aller à la police pour te faire aider. » Il répond « Pas la peine, je vais laisser mon oncle. Merci. » Dans une petite rue du Marais, il voit arriver à lui une grande femme maigre, habillée d'un manteau noir et d'un sac à main. Elle a le regard dur, cheveux en chignon gris. Il lui tend l'écran et lui dit « Pour une fois que je sors, il faut que je tombe sur un de ces pauvres. » Elle soupire et demande « Qui tu es, garçon ?» Et lui dit, « François, et j'ai faim. Tu n'as qu'à travailler. Je ne peux pas. Et tes parents ? Ils sont morts dans un incendie. » Elle fait, « Je vais m'en avouer pour toi, mais j'y peux rien. Demande de l'aide à ceux qui ont mis le feu. » Il lui dit, « Difficile, ce sont les francs blancs. » Elle fait, « Cela ne m'étonne pas. » Thank you. nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.